Bonjour, bonjour et bienvenue dans Questions politiques. Merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche du journal Le Monde, de France Inter et de France Info. Et une émission au terme d'une semaine de tensions, d'hésitations au sommet de l'État jusqu'à la décision de vendredi soir et les annonces de Jean Castex. Durcissement des mesures sanitaires, mais pas de confinement pour le moment. Alors pour analyser la stratégie de l'exécutif pour traverser la crise, pour essayer de comprendre le rôle de l'Europe alors que les retards se multiplient en matière de livraison de vaccins, notre invité jusqu'à 13h, il est député Modem, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Jean-Louis Bourlange s'est installé dans le studio de Questions politiques. Nous reviendrons aussi avec lui évidemment sur le projet pour conforter les principes républicains, projet de loi qui sera discuté à partir de demain à l'Assemblée. Pour intervenir, l'application mobile France Inter et les réseaux avec le hashtag #QuestionPol.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Jean-Louis Bourlange.
Bonjour.
Et bienvenue Monsieur le Président. Pour vous interroger, Solène Deroyer du journal Le Monde. Bonjour Solène.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Monsieur, bonjour à tous.
Avant de parler de la stratégie sanitaire, beaucoup de questions à vous poser Jean-Louis Bourlange. Mais si vous deviez qualifier le moment politique que nous sommes en train de vivre tous, collectivement, que diriez-vous?
Un moment d'extrême perplexité et d'extrême inquiétude sur tous les plans. D'abord, évidemment, la pandémie, qui est, je crois, un élément absolument massif qui perturbe tous nos repères. Nos repères, évidemment, sanitaires, nos repères économiques, nos repères sociaux, nos repères moraux, nos repères internationaux.
Donc, on a politique.
Un immense... Et politique, bien, la politique, c'est l'addition de tout ça. On est donc en face de cela. Et puis, par ailleurs, des évolutions quand même extrêmement importantes. Je crois qu'il faut d'abord parler du changement d'administration aux États-Unis, qui est quelque chose de très intéressant. Il y aura des éléments de continuité absolument évidents, mais il y a en même temps une approche des problèmes, une façon de les traiter ensemble qui sera fondamentalement différente et qui, du coup, nous oblige. Parce qu'il faudra qu'on dise des choses, qu'on affiche des positions, et on ne pourra pas se contenter de dire ce Trump est déraisonnable.
Et on ira justement sur ces terrains-là, ces terrains qui relèvent maintenant de votre responsabilité de président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Un mot peut-être pour savoir ce que vous avez ressenti vendredi soir. Est-ce que, comme beaucoup de Français, en apprenant qu'il n'y aurait pas de troisième confinement pour le moment, est-ce que vous avez ressenti du soulagement, Jean-Louis Bourlange, ou est-ce que vous vous êtes retrouvé, comme beaucoup, dans la situation de ne pas comprendre pourquoi ce qui était prévu, annoncé, imminent, n'était pas arrivé?
Je crois dans aucune de ces deux hypothèses, si vous me permettez. Le soulagement, je ne vois pas pourquoi on serait soulagé, parce qu'il n'y a pas de confinement, mais la pandémie continue, se développe, mute, etc. Enfin, tout ça est extrêmement préoccupant. Mais en même temps, je comprends très très bien les hésitations, le dilemme de l'exécutif. On voyait bien qu'il y avait globalement deux écoles qui discutaient. C'est normal qu'on débatte. Il y avait Monsieur Véran et le Premier ministre qui étaient plutôt sur le confinement, et on voit bien pourquoi. Et puis Monsieur Le Maire et Monsieur Blanquer qui étaient, pour des raisons convergente, attentif à tous les dégâts économiques, éducatifs que provoquerait le confinement.
Oui. Okay, il a choisi l'économie plutôt que la santé.
Non, il n'a pas choisi. Je crois que le président a estimé que... Enfin, le reproche que je fais depuis toujours, c'est que je trouve qu'on ne met pas assez sur la table de façon régulière, permanente et je dirais pleinement démocratique, tous les éléments sur lesquels on fonde l'analyse. On a l'impression, voyez, vous me posez la question, c'est presque, est-ce que le président a fait ci ou a fait ça? C'est une décision personnelle.
C'est exactement comme ça que ça se pose, non?
Oui, mais en réalité, ça se pose certainement comme ça, mais ce sont des gens qui prennent des décisions sur des dossiers étayés. Et je trouve qu'on devrait absolument avoir tout cela, savoir quels sont les attendus de toutes les décisions qu'on prend. Mais moi, je crois véritablement, le président a estimé que aujourd'hui, le pays aurait du mal à supporter un confinement plus serré, et que les dégâts en termes économiques, sociaux et psychologique. Il faut voir l'état de profonde désespérance d'un certain nombre de groupes sociaux, de groupes Bien économiques, sûr. De tranches d'âge, les jeunes, etc. Donc, il a estimé qu'il faudrait, il fallait voir ça. Je comprends, c'est un choix horriblement difficile, mais il me paraît tout à fait légitime.
Mais est-ce que c'est Nathalie un choix Saint-Cri. Ou est-ce que c'est un pari extrêmement risqué, un pari politique? C'est-à-dire que si dans 10 jours ou si dans une semaine, on se retrouve avec les fameux indicateurs dont vous parlez, à savoir aussi bien la présence du variant que le nombre de personnes en réanimation, est-ce qu'à ce moment-là, il ne prend pas le risque que tout le monde se retourne contre lui en lui disant « on a encore perdu une semaine ».
Écoutez, Jean-Louis Bourlange, je ne pense pas, parce qu'on fait on fait quand même des efforts considérables pour maintenir la distanciation, et je ne crois pas que si dans 10 jours on a une situation qui est celle que vous décrivez, qui est possible, tout à fait possible, ce soit dû à la décision qui est prise de ne pas confiner ce week-end.
Attendez, il y a une unanimité chez les médecins quand
mais
même.
En revanche, je ne vois pas, je n'exclus pas du tout que le président, voyant les indices se détériorer, dans l'hypothèse où ils se détérioreraient, dirait il faut aller plus loin, et je pense qu'il serait peut-être qu'il prend un risque politique, mais ça, dans cette affaire, si on commence à mesurer son risque politique, on ne sort pas vivant de l'affaire. En revanche, je crois qu'il serait beaucoup
Nathalie
plus fondé
de Paris.
Il serait beaucoup
et là, on
plus,
parie oui, sur la
oui,
vie
mais il serait beaucoup plus fondé à confiner à partir du moment où la situation serait celle que vous décrivez, et les Français seraient beaucoup plus à même de le comprendre,
même s'il y a une unanimité chez les médecins. Est-ce que vous voulez juste dire une chose par rapport à ce qu'on a pu connaître avant? On semble en ce moment avoir une unanimité chez les médecins qui disent tous ça ne peut pas ne pas s'aggraver, donc il fallait faire quelque chose. Alors est-ce qu'ils prennent le pouvoir, est-ce qu'ils exagèrent, est-ce que vous trouvez normal que finalement le président puisse s'en émanciper?
Et pour compléter, est-ce que vous pensez qu'un troisième confinement est évitable?
Je n'en sais rien. Je trouve que c'est quand même extrêmement barbare, le confinement. C'est une méthode, c'est vraiment un dernier recours. Mais je ne suis pas. On vient de faire le couvre-feu. On le rend plus sévère cette fois-ci. On se donne quelques jours. Je ne sais pas si j'avais été à la place du président Macron, si j'aurais fait le même choix que lui. Je ne sais pas, parce que j'ai pas tous les éléments. Mais je trouve raisonnable dans l'état d'exaspération de l'opinion de dire il faut vraiment, pour que ça marche, on est une démocratie, on n'est pas la Chine, on n'est pas un pays dans lequel l'administration décide et tout le monde.
Et ben justement, vous êtes député de la nation, oui. Et l'une des missions de l'Assemblée nationale et du Parlement, ce n'est pas seulement de voter la loi, c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement. Oui. Et vous, député Jean-Louis Bourlange, président de commission, vous nous dites je n'ai pas les éléments tout simplement pour pouvoir juger des raisons pour lesquelles l'exécutif prend une décision.
Vous avez
dernier
posé
exemple
la même question
en date
à Jean-Yves Le Drian la semaine dernière. Il vous a fait la réponse que je
mais
fais.
Mais lui, il est du
c'est
côté de l'exécutif.
C'est pas le
il
député
est du côté de l'exécutif. Vous êtes du côté de l'Assemblée.
Rien, mais il n'a pas plus les éléments. Moi, c'est pas moi qui maîtrise le virus, c'est le virus qui
non,
a les éléments.
En revanche, à l'Assemblée nationale, vous allez devoir débattre de ce nouveau confinement ou pas, en tout cas des mesures sanitaires. Un vote, mais il ne sera pas contraignant. Il y a aussi la dissolution de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire. Est-ce que ça ne révèle pas un problème démocratique, comme le disent beaucoup?
De toute manière, je viens de vous le dire, je ne crois pas que ce soit, en l'occurrence, vous savez que je suis très attaché au renforcement du pouvoir parlementaire, que je trouve que la démocratie parlementaire est très sacrifiée en France, pas maintenant, elle était sacrifiée sous les quinquennats précédents, etc. Mmh. Ça devient de plus en plus, et notamment ça a été renforcé par le quinquennat, qui a vraiment abaissé en réalité le Parlement, malgré les réformes qu'on a fait prévaloir en 2008, auxquelles j'étais associé, d'ailleurs, parce que j'étais dans le comité Balladur, on a proposé des choses qui ont quand même été assez substantielles pour augmenter les pouvoirs du Parlement. Mais vous avez raison. Mais là, en l'occurrence, ce que je trouve, c'est qu'on ne donne pas aux Français, d'une façon assez systématique, tous les éléments d'information qu'on a. Mais évidemment, ces éléments d'information sont fragiles, sont hypothétiques. On ne sait rien. Personne ne sait ce que donnera le virus anglais, le virus sud-africain, le virus brésilien. On a énormément d'incertitudes, mais il est bon de mettre sur la table tous les critères par lesquels on fait ces choix. Je pense que c'est là depuis le début.
Dont les sondages sur l'acceptabilité sociale. Ça aussi, il faudrait
pas seulement seulement les sondages, mais écoutez, il faut quand même voir la situation de d'un certain nombre de groupes. Je pense aux jeunes. Vous savez, vous êtes un grand intellectuel. Vous savez que depuis Aristote, nous savons que l'homme est un animal social, un animal
et
qui vit en société.
J'aime cette filiation.
Quand vous êtes jeune, comment pouvez-vous vivre en société? Vous vivez en société, ça veut dire vous vous formez, vous apprenez en société, vous produisez, vous travaillez en société et vous vous divertissez en société. Ces trois choses sont interdites. C'est un traumatisme absolument énorme pour des générations. C'est pas des sondages, il s'agit pas de savoir si les gens ont été formidables, les Français. Ils sont pas contents du tout parce que, comme dit le président, ils sont un peu râleurs, mais ils ont absolument accepté les disciplines qu'on leur a imposées parce qu'ils savent qu'il y a péril dans la demeure et ils voient bien qu'ailleurs, ça se passe pas mieux qu'ici. Bon, mais cela dit, tout le monde est très conscient des perturbations énormes sur le plan économique, social et moral. Donc on essaie de faire au mieux.
Justement,
c'est tout.
Justement, Nathalie Saint-Cric, Micheline de Royaume. Essayons d'être à la hauteur intellectuelle d'Ali Badou
et d'Aristote
que j'ai moins connu. Est-ce que vous considérez que le débat entre les jeunes et les vieux, pour parler vulgairement, c'est-à-dire celui qui s'est posé en se disant est-ce que finalement pour sauver un certain nombre de tranches d'âge plus âgées, on met en péril les jeunes, est-ce que vous trouvez qu'il s'est suffisamment posé, qu'il a été suffisamment débattu? On avait même imaginé à une époque qu'il y ait une sorte de confinement presque forcé pour certaines populations à risque. Est-ce que vous pensez que ça aurait été justement bien d'en débattre et d'en discuter?
J'en ai discuté avec vous l'année dernière,
oui,
quand vous m'avez invité.
C'était il y a un an.
Nous, bizarrement, on a moins de poids sur...
Et j'avais dit d'ailleurs que j'étais personnellement tout à fait candidat. Je crois que c'était une affaire psychologique importante. C'est très difficile d'expliquer à des gens âgés ils sont coupés de la société. C'est très difficile. C'est un problème psychologique. Ils se sentent déjà morts. Mmh. Et donc, j'avais été très frappé à l'époque, c'était donc il y a un an à peu près, j'avais été très frappé de la vivacité des réactions dans ma circonscription ou ailleurs que j'avais ressenti. Des gens qui disaient, vous considérez que je suis déjà mort. Et on se disait, non, mais vous avez intérêt à vous protéger. Parce que tout ça, il faut convaincre. C'est évident que c'est la population qui est la plus directement exposée au risque létal, que si elle est confinée, elle augmente massivement ses chances d'échapper à la maladie et donc à la gravité de la maladie. Donc il faut faire valoir cela.
Mais les termes du débat, Jean-Louis Bourlange, ont changé.
En tête en disant maintenant les vieux à la niche.
Les termes du débat ont un peu évolué depuis un an, depuis notamment par exemple qu'un philosophe comme André Comte-Sponville a formulé la chose suivante: on sacrifie les jeunes au détriment des personnes âgées, la liberté sur l'autel de la santé. Cette manière de poser la question, est-ce que vous l'admettez ou est-ce que vous trouvez que c'est une manière, caricaturale de voir aujourd'hui les mesures comme un sacrifice de l'avenir et des jeunes?
Je pense que c'est quand même l'honneur de notre... je suis concerné, hein, je suis vraiment pas un poulet de l'année, hein. Mais je crois que c'est l'honneur d'une société que de considérer que des gens qui sont peut-être inutiles socialement méritent quand même d'être traités comme des êtres humains et pas comme des futurs rebuts. Ça, je suis formel sur ce point. Là où je crois que nous devons... C'est-à-dire ça qui justifie, selon moi, l'endettement en particulier. Là où nous devons faire très attention, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que nous faisons avec les jeunes. Quand on les coupe des trois fonctions qui sont celles des jeunes, apprendre, travailler, se divertir, c'est ça que font les jeunes. C'est comme ça qu'ils vivent. Et là, on a quelques cohortes, quelques générations, qui sont dans une situation de très très grande handicap par rapport aux autres. Vous avez bien vu les statistiques, elles sont constantes. Quand vous manquez votre premier rendez-vous d'emploi, et il va y avoir énormément de gens qui vont le manquer, vous le traînez, si on ne fait pas attention, toute la vie. Oui. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir à des mécanismes de formation permanente pour les 20-30 ans. Il faut vraiment réfléchir à des phénomènes de rattrapage. Il faut vraiment réfléchir à des phénomènes d'aide aux revenus qui ne soient pas des aides à l'oisiveté, mais qui soient liés à des contrats de formation et d'activité. Je pense qu'on a vraiment besoin de s'adresser aux gens qui ont entre 18... au moins, enfin peut-être, de 18 et 25 ou 30 ans, on a vraiment besoin de faire un effort absolument particulier, parce que c'est eux qui prennent tous les risques, toutes les conséquences de enfin, les, pas eux seuls, mais les conséquences
les
principales de ce qui se passe.
Les plus dures, Solène Noyer.
Je voudrais revenir sur l'acceptabilité, puisque le président de la République semble obsédé par cette question. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, de désobéissance civile en France?
Écoutez, moi, il y a toujours... je ne sais pas si les Français sont des procureurs. Je crois d'ailleurs que cette phrase n'était pas déplaisante à l'égard des Français.
Ah bon?
Je crois que
la phrase du président,
elle était maladroite.
Nous sommes une nation de 66
millions de procureurs.
Si vous
voulez me dire qu'elle est à droite, je vous dirai pas ça. Mais elle était... parce que ce que voulait dire le président, c'est assez simple. C'est... on connaît les Français, ils sont plutôt portés à critiquer, etc. C'est pas... C'est quand même pas... c'est ni faux, ni méchant. Bon. Mais ce dit, c'était pas très opportun. J'en suis tout à fait d'accord.
Est-ce qu'il y a un risque?
Mais le risque... Alors, il y a... Bien sûr qu'il y a... Il y a un risque, mais alors ce qui me frappe, c'est quand même qu'il est moins fort que dans beaucoup d'endroits. Nous n'avons pas eu quelque chose d'équivalent jusqu'à présent à ce qui s'est fait aux Pays-Bas. C'est quand même... donc moi, je trouve que les Français ont fait preuve d'une exceptionnelle...
Vous parlez des scènes d'émeutes et de révoltes...
Oui, dans les rues d'Amsterdam.
Si oui.
Bon, on est dans des... Ça prouve que les gens sont tous au bord de la crise de nerfs, mais je trouve que les Français ont fait preuve de beaucoup, beaucoup de patience, de discipline, etc. Maintenant, il faut effectivement... il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, parce que c'est intolérable à long terme.
Un sujet que vous connaissez bien, l'Europe, et Nathalie Saint-Cric, justement, va vous interroger sur cette question.
On avait l'impression, il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, que l'Europe était devenue quelque chose d'absolument formidable. Plan de relance commun, achats globaux de vaccins et groupés, de manière à être sûr d'avoir nos doses. Et là, patatras, on a l'impression que c'est exactement le contraire. Je ne parle pas du plan de relance, je parle surtout de cette histoire des vaccins qui semble relativement incompréhensible. Et je la corrèle à ce que vous aviez dit. C'est-à-dire que pour que ce soit supportable, plus vite on est vacciné, plus tranquille, on sera du côté du reconfinement. Comment est-ce que vous jugez ce que l'Europe a fait en matière de vaccins ?
Jean-Louis Bourlange.
Bah écoutez, vous ne parlez pas du plan de relance, on parlerait donc
on
pas.
On parlera mais, tout à l'heure.
Non, pas là, non. On va y venir.
Quelque
c'était
chose
pour, partons des vaccins. Pour serrer les,
sur les vaccins.
Les questions.
Moi, je trouve que je trouvais absolument étrange le procès qu'on fait à l'engagement européen. J'ai entendu que ça prouvait que le Brexit était quand même très bien, puisque les Anglais, tout seuls, s'en tiraient beaucoup mieux. C'est un raisonnement que je ne comprends absolument pas.
Non.
Nous sommes en face d'un fléau mondial, absolument mondial, qui vient de partout, qui frappe tout le monde, qui demande des solutions mondiales. Il ne s'agit pas simplement de protéger 65 millions de Français. Il faut protéger 8 milliards d'êtres humains, parce que si on si on corrige pas ce truc, si on vient pas à bout de cette affaire en Inde, en Afrique,
ça continuera.
En Chine ou au Brésil, on le reprendra en contre avec sous des formes aggravées.
Donc
c'est un enjeu. Et les solutions sont évidemment multinationales. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est l'ensemble de la communauté scientifique et de la communauté industrielle qui apporte, dans un mélange de convergence et de concurrence, les solutions techniques. Face à cela, il me paraît complètement étrange de dire qu'on doit avoir des stratégies avec notre petit drapeau, notre grand drapeau national, en face de tout cela. Nous, qu'est-ce que nous serions ? Nous n'avons pas de vaccin. C'est dommage. On aurait pu en avoir. Nous n'avons pas de vaccin, Pasteur, pour des raisons qui doivent s'expliquer, mais qui tiennent aussi à certaines carences de l'organisation économique française, sur lesquelles il faut s'interroger. Nous sommes donc complètement démunis. Nous serions exposés à la concurrence de gens qui, eux, ont des valeurs. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont simplement...
Mais nous sommes dans cette compétition. L'Europe est dans cette compétition mondiale. Elle est en compétition avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni. Et on a vu, par exemple, Pfizer, AstraZeneca a annoncé que seules 40% des doses prévues seront finalement livrées
c'est
au premier
différent.
Trimestre.
Pfizer et AstraZeneca ont réagi de façon très
Moderna
différente.
Dit qu'il y aurait aussi des retards de livraison.
Mais bien sûr, mais écoutez...
Alors que les vaccins sont livrés plus rapidement, non, semble-t-il, ailleurs, aux États-Unis
non,
et au Royaume-Uni.
Mais
comment expliquez-vous ces ratés ?
Il y a deux pays qui ont foncé, c'est Israël et le Royaume-Uni. Bon, Israël, c'est génial. Mais ça, c'est Israël. Hein. C'est un pays génial parce que ils sont toujours en guerre, donc ils ont une organisation.
Mais ils sont pris plus tôt, surtout.
D'une très grande efficacité dans la distribution.
Ils ont payé plus cher.
Ils n'ont pas appliqué le principe de précaution avec la même rigueur que nous. Et ils ont eu l'extrême intelligence. Ça, c'est vraiment particulier à Israël de fournir, non seulement de l'argent, mais de fournir des volontaires. C'est-à-dire qu'ils ont dit au laboratoire, vous voulez faire vos expérimentations, nous avons 5, 10 000 personnes qui peuvent faire ces expérimentations. Donc ils ont réussi. L'Angleterre, c'est pas du tout ça. L'Angleterre, ils ont une boîte à eux et ils ont décidé de faire jouer à fond la corde. Alors c'est pas, si nous étions en Fraxit, au lieu comme ils sont en Brexit, nous serions totalement démunis.
Mais en revanche,
non, mais je vais finir quand même sur l'avantage de l'Europe. L'Europe apporte quand même trois choses. Elle apporte d'abord une puissance de négociation dont nous bénéficions. Et c'est pas parce qu'AstraZeneca se conduit très mal quand on voit les engagements qui ont été pris et la façon dont ils sont tués. C'est pas du tout la même chose que Pfizer. Hein. Pfizer avait d'autres problèmes. Et je suis d'accord avec vous. Il y a une difficulté à fournir globalement, mais c'est normal. C'est normal. Depuis le début, on aurait dû le dire, d'ailleurs. Quand vous voyez en quelques mois, les labos ont réussi à inventer un vaccin.
Exploit scientifique extraordinaire.
Et commence à le produire dans des quantités énormes. Mais bon.
Comment expliquez-vous, oui, M. Bourlange, les lenteurs françaises en matière de vaccination, les problèmes logistiques considérables que nous rencontrons? Qu'est-ce que ça dit du pays? Qu'est-ce que ça dit de l'organisation de l'État? Qu'est-ce que ça dit de la situation dans laquelle on se trouve?
Jean-Louis Bourlange.
Ça dit deux choses du pays qu'il faut pas confondre, et c'est ça le problème de là, qu'il ne faut pas confondre avec les problèmes de libre d'accès au vaccin. Hein, le problème d'accès au vaccin, ils me paraissent, sauf dans le cas d'AstraZeneca qui vraiment se conduit pas très bien, ils me paraissent explicables et graves d'ailleurs, mais normaux. On peut pas fournir pour 8 milliards d'êtres humains, parce que c'est ça l'enjeu, on peut pas fournir des vaccins à toute vitesse, etc. Et bon, mais pour la France, les décisions d'un mouvement lent vers la vaccination reflète deux choses. D'abord, l'extrême domination du principe de précaution, une domination excessive, en Europe aussi, avec notamment l'influence énorme des anti-vax, qui on avait quand même plus de la moitié des Français qui étaient hostiles au vaccin. Donc on a pris des précautions, des lenteurs, des délais, alors qu'un pays comme Israël, qui est toujours confronté à une exigence de survie, a dit « on fonce ». Bon, là, il y a vraiment une précaution, une timidité française qui peut être justifiée parfois, mais qui ne nous rend pas très agiles. Et puis d'autre part, on voit bien depuis le début que l'État français, ça marche pas bien. Moi, j'avais un médecin qui me téléphonait hier dans un département que je connais bien, qui n'est pas mon département et où je suis élu, mais qui me disait, avec l'ARS, je deviens folle, je n'arrive pas à avoir un interlocuteur, etc. Alors, on a les rigidités du système étatique français. L'État français
a montré
sa qualité et ce défaut dans cette crise. Sa qualité, c'est qu'il a été un formidable assureur social. On a pris en main, mieux que tout le monde, tous ceux qui avaient des problèmes économiques, pas tous bien sûr, mais une immense majorité de ceux qui avaient des problèmes économiques avec les prêts aidés, avec les compensations de perte de revenus. On a vraiment assumé...
Le chômage partiel.
Le chômage partiel, oui. On a assumé tout cela très bien. Là, on est très bon. Et puis, en revanche, comme prestataire de services, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché dès le début. On a eu des conflits on a eu une absence de coordination entre le secteur, la médecine de ville, c'est-à-dire l'exemple que je vous donnais, et la médecine hospitalière, entre la médecine
et la médecine vétérinaire. Mais Olivier Véran, qui disait qu'il obtiendra l'objectif de vacciner 4 millions de Français, c'était fin février. Ça, c'est une vieille promesse. Aujourd'hui, on en est à peine à la moitié. Oui. C'était le gouvernement a d'ores et déjà divisé cet objectif par deux. Vous comprenez du coup que les citoyens puissent et se transformer, alors peut-être pas en procureur, mais en tout cas en...
Non, mais je comprends. Je dis, moi, je ne critique pas du tout la politique du gouvernement dans ce qu'elle fait, parce que je crois qu'ils font face de la façon la plus courageuse qui est possible, et les rigidités et les lenteurs, elles sont vraiment liées à ce que j'appellerais, comme on dit sur la Turquie, à l'état profond. En revanche, je veux répondre quand même à la question, donc je comprends cela, mais je crois que le gouvernement a fait une erreur de communication en assumant l'objectif de lenteur au mois de décembre. Alors maintenant, on impute au gouvernement des lenteurs qui ne lui sont pas du tout dues. Car la vraie cause de la lenteur, c'est celle que nous disions tout à l'heure, c'est la difficulté de l'appareil et des labos à produire les doses dans les quantités nécessaires.
Argument d'AstraZeneca, je cite, prévues. On ne s'est jamais engagé sur un nombre de doses, mais seulement à faire de notre mieux. Je ferme les guillemets. Mais en l'occurrence, pourquoi est-ce que l'Union européenne n'utilise pas tous les recours et même la voie judiciaire pour exécuter les contrats de vente de vaccins.
Moi, j'ai pas le contrat, mais ce que j'ai lu, en tout cas, est très clair. AstraZeneca avait une obligation de moyens. Alors, ça veut dire quoi, une obligation de moyens? Ça veut dire que vous estimez être en mesure de produire ce que vous annoncez, ce qui est écrit,
oui.
Et ce pourquoi vous recevez un engagement, parce qu'il y a un engagement de commande publique de la part du client. C'est pas unilatéral, cet accord. Vous proposez, mais simplement, AstraZeneca dit, si j'ai un petit problème d'ajustement, parce qu'on ne sait pas où on est exactement, je pourrais ne pas tout à fait assumer la chose. Et après, ils nous disent, on produit un quart. C'est absolument un mensonge dans le contrat, c'est tout. Alors, je ne sais pas comment jurer, je ne connais pas le contrat exactement, je ne sais pas comment ça va se régler, mais c'est un cas flagrant de contrat abusif.
Nathalie
dans
Saint-Cric.
Cette affaire, et qu'il faut, et la commissaire, c'est la commissaire chypriote, si je me rappelle bien, la commissaire qui a protesté avec la véhémence qu'on connaît au peuple hellénique, au pluriel, et bien,
enfin, elle a
tout à fait raison.
Oui, pour demander la sécurisation de nos approvisionnements en vaccins.
D'ailleurs,
elle a protesté, elle n'a pas porté l'affaire devant la justice.
On va voir, ils vont sortir le contrat. Et Pfizer, on a eu un problème avec Pfizer, la présidente de la commission agit, et Pfizer a réagi. Pfizer est de bonne foi dans cette affaire. Ils ont dit, on a eu des problèmes parce qu'on voulait moderniser, etc. On a eu une semaine de retard. Là, c'est normal.
Nathalie
Saint-Cricq. Vous avez mis en cause l'État profond et la France en particulier. Est-ce qu'il n'y a pas un problème européen? Le professeur Juvin, qui est certes LR, mais qui est aussi médecin, considère qu'il y a une lourdeur...
Il a beaucoup d'amitié, qui a été un excellent député européen.
Exactement. Une énorme lourdeur bureaucratique européenne. Et qui dit notamment ne pas comprendre pourquoi on doit être homologué 20 fois, alors qu'on pourrait considérer que si par hasard le Canada homologue un vaccin alors qu'on a tous le même degré d'exigence sanitaire, pourquoi tout ça ne va pas plus vite? Et ce qui expliquerait notamment qu'on ait perdu du temps en Europe en attendant que tout le monde autorise tout le monde et valide les nouveaux vaccins. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à simplifier?
Il y a deux choses, d'une façon générale. Je crois que écoutez, nous sommes dans une Europe qui est très insuffisamment organisée. Pour l'instant, chaque État veille à ralentir et pas accélérer. A priori, c'est la Commission qui tire tout le monde, et c'est quelques chefs d'État comme Emmanuel Macron qui veut que ça avance. Mais globalement, tout le monde est inquiet. C'est ça, l'Europe n'est pas suffisamment unie. Elle avait fait une formidable marche.
Sur la santé, quelque chose qui devait venir bien.
Mais il y a le principe, il y a le problème.
C'est une
population. Je voyais des écrits des Chinois, etc. sur nous. C'est vrai que nous sommes une civilisation extraordinairement prudente, extraordinairement circonspecte.
Naïve ?
Non, pas naïve. Au contraire, marquée par la méfiance. Notre plus grand obstacle, c'est la méfiance, disait Pierre Mendès France. Et c'est ça, nous sommes dans une société de méfiance, de crainte, de complotisme, de tout cela fait que les dirigeants publics, qu'ils soient nationaux ou européens, marchent un peu sur des œufs, parce que nous sommes une démocratie. Et vous savez, une démocratie, c'est simple.
Si les gens
ne veulent pas obéir, c'est pas avec les petits appareils répressifs que nous avons dans nos démocraties que nous les ferons obéir.
Non, mais sur l'homologation.
Donc il faut convaincre.
Pourquoi les Allemands disent le AstraZeneca, il est pas bon pour les plus de 65 ans, il est inefficace? Pourquoi nous, on dit qu'il l'est? Pourquoi il n'y a pas quelque chose?
Je crois que l'AstraZeneca, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est certainement le moins bon de ceux qui sont en circulation. Effectivement, il a des tests qui sont pas très bons pour les personnes âgées. C'est celui qui arrive assez tard.
Nous ne sommes pas scientifiques. Mais en l'occurrence, on voit des décisions prises et qui sont très différentes en fonction des pays européens. Et il s'agit des vaccins, mais aussi des stratégies sanitaires entre les pays qui confinent, ceux qui décident de ne pas le faire.
Le contrôle aux frontières, justement,
regardez,
monsieur Brolin.
L'Allemagne, il y a des décisions. La plupart des décisions sont prises par des Länder et pas par l'État fédéral. Vous savez, c'est très compliqué la décision publique à l'intérieur de chacun de nos États. Nous avons des tensions avec les collectivités territoriales et l'État. Les Allemands ont une véritable rupture entre les Länder et la chancelière fédérale, qui pourtant était arrivée auréolée de tous les prestiges de la terre, et entre nos États, on n'a pas les mêmes sensibilités. C'est comme ça, c'est la matière. L'Europe, c'est pas une tunique sans couture. Hein.
Sur les frontières, justement, est-ce que le président a raison de vouloir garder les frontières ouvertes au sein de l'Union européenne plutôt que de boucler la France comme vient de le faire la Belgique?
Écoutez, l'idée,
ou est-ce qu'il faut fermer davantage?
Moi, je ne suis pas en mesure, là, technique, parce que c'est vraiment des problèmes techniques d'observation du virus et de sa circulation. Ce que je vois très simplement, c'est que tous sont frappés. Et que donc, tous sont frappés à l'intérieur de l'Union européenne, et que donc, c'est pas absolument évident qu'il faille accroître encore la viscosité, puisqu'il y a du virus partout.
Mais c'est inédit de fermer ses frontières à tous les pays hors Union européenne.
C'est
la décision qu'a prise le gouvernement.
De fermer les
des frontières.
Les frontières.
Oui, pardon, je répondais de travers là. Alors ça, là aussi, je trouve que il faut être totalement pragmatique. On charge toujours idéologiquement. On dit ah pas les vaccins AstraZeneca, c'est la faute de l'Europe et le Brexit, etc. On dit on ferme les frontières, c'est la faute de l'Europe. On a fermé les frontières à l'intérieur du pays. On a fait des zones, on a interdit de circuler, on pouvait pas, quand on était à Paris, on pouvait pas aller en Seine-Maritime, par exemple. C'est simplement des exigences techniques. Il faut quand même arrêter, poser un peu l'idéologie à côté et regarder ce qui fonctionne. Jusqu'à présent, entre les Allemands et les Français, c'était à peu près... ça fonctionnait. Ouais, alors, je pense que la décision prise par le gouvernement tenait au fait qu'ils ont estimé que c'était rentable et tout ce qui nous permet de lutter contre la pandémie doit être fait et sans aucun a priori idéologique. On sera pas moins européen parce que pendant quelques semaines on aura fermé nos frontières les uns avec les autres.
Encore une question sur le sujet, sur la crise sanitaire avant de passer à d'autres dossiers. Solène de Royer.
Non, pour revenir à l'état profond, pour poursuivre la question de Nathalie Saint-Cric. Donc, on a vu tous les problèmes logistiques. La faillite de l'État, la bureaucratie, qu'est-ce qu'il faut changer dans notre organisation, Jean-Louis Bourlange?
Justement, ça c'est quelque chose sur lequel je réfléchis depuis, notamment depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. Je pense que ce que montre l'évolution, c'est que ce ne sont pas des lois, des réformes législatives qui, elles sont utiles. Elles sont parfois même très utiles, mais le problème, ce pays a moins besoin d'être réformé dans ses principes que gouverné, modifié dans sa pratique. Et ça implique un effort extrêmement peu populaire, peu lisible, mais
exemple.
Très difficile.
Exemple, qu'on comprenne bien.
Exemple, c'est le millefeuille administratif. Vous regardez la région Île-de-France, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Nous présentons un candidat parce que nous sommes assez d'accord avec ce qu'a fait Madame Pécresse sur le plan régional. Nous présentons la candidature de Jean-Noël Barrot parce que nous voulons. On verra avec qui il fera affaire. C'est pas fini.
Et si les élections ont lieu.
Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on clarifie les Franciliens ont besoin d'un système beaucoup plus clair.
Mais ça fait des années qu'on en parle. Pourquoi cette réforme de l'État semble impossible en France?
C'est pas la réforme de l'État. Le problème, c'est qu'on doit faire des réformes continuellement, petit à petit. C'est extrêmement difficile, c'est peu valorisant et c'est nécessaire. Et ça, je vous dis l'exemple que je donnais, c'était la personne qui s'est adressée à moi me disait j'ai un bon rapport avec le président de l'ARS dans ma région, mais j'ai son représentant dans ma ville. Est absolument un élément de blocage important. Bon, et ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est très difficile de contourner ça. C'est la méfiance, c'est le fait qu'on vous demande de remplir en 3 exemplaires, que quand on a voulu abolir des barrières artificielles entre la médecine animale et la médecine humaine, ce qui était nécessaire, ça a mis des semaines. Le décret, un exemple, Libadou, le décret sur le, j'ai appris ça au moment de la mort de Madame de Sarnez, le décret sur la jauge nécessaire dans les églises. D'abord, il a fallu un décret dans n'importe quel pays, une circulaire, un accord, on dirait, voilà, on se met tous d'accord, on aura ça, il y a un consensus de bon sens à établir. Le décret a été pris en décembre. Ça faisait des mois qu'on en discutait. Pour savoir combien de personnes ont le droit d'assister à une messe d'enterrement, on met 2 mois. Tout est comme ça dans ce pays. Et ça doit le changer. On ne le changera pas par un coup de baguette magique. C'est une action quotidienne et peu gratifiante, mais absolument indispensable.
Le député MoDem et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Bourlange, est notre invité ce dimanche.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Question à propos de ce projet de loi dont vont débattre les députés à partir de demain. Projet de loi initialement intitulé sur le séparatisme ou contre le séparatisme et qui est devenu un projet de loi pour conforter les principes républicains. Est-ce que vous comprenez l'esprit et l'utilité de cette loi, Jean-Louis Bourlange?
D'abord, je me réjouis du changement de titre. Moi, j'ai été très gêné par le séparatisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois qu'il n'y a qu'un seul mouvement séparatiste, c'est le mouvement nationaliste corse, enfin, qui compte. Or, c'était pas du tout celui qui était visé. Et je crois que d'une façon générale, le séparatisme, c'est le fait de vouloir se dissocier de la République française. C'est certainement quelque chose que je ne partage pas. Mais, je crois que ça, c'est licite, si vous voulez. En revanche, ce qui est très grave, et ça c'était autre chose, c'était effectivement la mise en cause des principes républicains par un certain nombre de communautés, notamment de communautés religieuses, islamistes, et pas islamiques, hein, pas musulmanes, mais islamistes, et avec des comportements, pas seulement d'ailleurs islamistes, mais des comportements terroristes. Quand je voyais à France Inter, il y a quelques semaines, Monsieur de Morand recevait un intellectuel tout à fait remarquable qui expliquait que l'action directe, la violence était tout à fait légitime. Ben non, c'est quand même quelque chose de
À qui pensez-vous, à Geoffroy de La Gannerie?
Oui.
C'est un intellectuel, oui, qui est radical, engagé très à gauche,
et ce qu'il disait était quand même assez grave sur le plan des principes républicains.
Vous, ce projet de loi doit concerner autant l'emprise des islamistes sur des quartiers, des communautés, que des discours,
de rupture avec la
vie républicaine.
C'est le but.
Mais je vous pose la question.
C'est un projet de loi qui affirme les principes républicains, la légitimité des principes républicains et la nécessité de s'y conformer. Alors là-dedans, il y a plein de choses. La plupart des choses sont utiles, mais je crois, j'irai dans votre sens, je crois que l'essentiel sera tout à fait au-delà du projet de loi. L'essentiel, c'est par exemple, je donne cet exemple, une école, et je comprends cette décision de la part du conseil d'administration de cette école qui ne voulait pas que les enfants de cette école soient pris en otage par des terroristes qui refusent que l'établissement s'appelle Samuel Paty. Ça prouve la profondeur du désarroi dans l'opinion. Et ça, c'est un travail qui implique ce qu'a très bien en tête Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, mais ça implique un travail de mobilisation des enseignants, d'aide à apporter aux enseignants, de confort donné aux enseignants, qui est tout à fait important. Mais ça, c'est pas une loi qui va changer ça. La loi sur la haine en ligne, sur les tas de choses qui sont, et les dispositions de la loi sont à peu près satisfaisante et positive.
Qu'une loi ne suffise pas, c'est en général le cas. Mais est-ce que clairement vous considérez que le contrôle d'un certain nombre d'associations, de leur financement, le fait d'éviter d'avoir la multiplication d'écoles où on enseigne des choses un petit peu étranges, est-ce que vous considérez que c'est le moment où, comme certains le disent, que ça va renforcer les fractures françaises, que ça va créer un climat d'islamophobie, je ne sais quoi, ou est-ce que vous pensez qu'il fallait le faire?
Je crois qu'il faut faire attention, mais je ne vois pas pourquoi les musulmans se sentiraient discriminés par le fait qu'on leur applique les principes associatifs qui régissent le culte catholique. Puisque vous savez qu'il y a deux modèles associatifs. Il y a le modèle de la loi de 1901, la fameuse loi Valmy-Rousseau, Je dis ça parce que Waldeck-Rousseau est mon grand homme.
Oui.
Je suis un admirateur sans borne de Waldeck-Rousseau. Je crois qu'il a fondé plein de choses dans la République. Et puis, la loi de 1905, qui est plus restrictive que pour les associations cultuelles. On décide de faire passer, en fait, les associations islamiques de la première à la seconde catégorie. On les met dans le droit commun des associations culturelles.
Oui, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème au-delà, pour le coup, des associations islamistes ou islamiques, on les appelle comme on veut. C'est que, par exemple, est-ce qu'on peut se retrouver dans la situation d'empêcher des subventions au Secours catholique, par exemple ?
Oui, mais bien sûr, il faut ça.
On va tout à fait. C'est ça le problème de la loi.
Oui, on va tout à fait éviter ça. C'est pas du tout ça qui est en cause.
Mais c'est malheureusement le problème. Déjà, c'est l'universalité de la loi.
Comment ? Oui, mais c'est l'université de la loi, bien sûr, mais c'est pas, personne ne s'oppose à ce qu'il y ait un secours musulman, c'est pas la question. La question, c'est quand vous assumez une fonction de service public, c'est tout à fait différent que vous ne fassiez pas du prosélytisme religieux dans la fonction de service public. Non. C'est tout.
C'est beaucoup
mais
plus
ce que je veux dire, je veux quand même ajouter un point. La loi, le projet de loi, la fabrication de la loi a déjà eu un avantage énorme. La communauté musulmane a vraiment bougé. Elle a vraiment réagi. On passe des accords. On a l'acceptation de cette charte. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Bien sûr qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui s'est mis en place. Moi, j'ai beaucoup étudié les problèmes de l'insertion du monde catholique.
Oui.
Les catholiques, au début du siècle dernier, ils étaient au banc de la République et volontairement, ils avaient fait des choix qui étaient des choix très condamnables sur l'esprit critique, sur la liberté, sur le rationalisme. Eh ben, on a fait évoluer tout ça. Et l'évolution s'est faite notamment par les catholiques eux-mêmes qui ont accepté les principes républicains qu'ils n'acceptaient pas. Et donc c'est ça la solution. Et je trouve que la loi, de ce point de vue-là, fait progresser les choses.
Monsieur Bourlange, vous avez parlé de la loi de 1905. L'esprit de cette loi était libéral. Cette loi séparatisme accroît en revanche les contrôles de l'État et réduit les libertés. Assiste-t-on à un tournant sécuritaire dans l'histoire de la laïcité en France ?
Non. La loi de 1905 était assurément libérale. Aristide Briand l'avait conçue comme telle. Et je vous signale que les catholiques, notamment les catholiques, le Saint-Siège a publié une encyclique qui s'appelait Vehementer Nos, qui était une condamnation, etc. Mais en réalité, leur satisfaction n'avait d'égal que leur indignation, car ils récupéraient en fait la nomination des évêques, alors qu'avant, sous le régime concordataire, c'était le ministère de l'Intérieur qui, oui. Anatole France a fait des romans là-dessus qui sont absolument merveilleux, L'Orme du Mail, etc. C'était un bureau qui était tenu par des francs-maçons en général, et qui discutaient avec les évêques. Donc, après, ça s'est très, très mal passé. Les inventaires, Combes, on a envoyé des troupes, et Clémenceau, qui était formidablement, exagérément anticlérical, quand il est arrivé au pouvoir, a dit, je ne laisserai pas un gendarme,
Nathalie la vie d'un gendarme. Qui en est spécialiste, donc, dit pas exagérément, il était juste anticlérical.
Non, mais j'ai pas fini, vous avez pas entendu la fin de ce que j'ai dit. J'ai dit, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, ça suffit. Parce qu'il était plus malin que Combes. Et il a dit, je ne laisserai pas la vie d'un gendarme exposée pour quelques ciboires. Il avait fait une petite allusion anticléricale. Et là, on ne fait pas un tournant.
Sécuritaire.
Non, on constate simplement qu'il y a des lieux de culte qui sont des foyers quasiment insurrectionnels. Il faut faire quelque chose.
Mais le
système ne sera pas plus contrôlé.
Comprenez-vous alors la position de la Fédération protestante de France, pour laquelle la liberté même du culte est touchée pour la première fois en France?
Écoutez, il faut voir. Je comprends qu'il faille faire très attention. Il faille faire très attention, mais je ne vois pas en quoi on verra ce que sera le texte. Je ne suis pas dans la commission des lois. Je vois mes collègues qui se battent avec énormément d'attention et de précision. Madame Florey, Madame Wisniewski, Monsieur Balanant, d'autres, qui se battent avec énormément d'ardeur pour que ces choses, ces débordements n'aient pas lieu. Et il faut effectivement qu'ils n'aient pas lieu. Nous sommes par exemple très attentifs à ne pas mettre en cause d'une façon abusive la possibilité d'enseignement à domicile. Les problèmes qui vont se poser, à mon avis, les problèmes les plus graves, c'est sur l'école. C'est pas sur le culte. Le culte, ça va aller très bien. C'est sur l'école et notamment. Mais c'est le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas l'école à domicile. Le vrai problème, ce sont les écoles sans contrat.
Ouais.
ou les écoles clandestines. Et là, il y a effectivement, sur les écoles clandestines, il y a simplement une activité répressive à mener, c'est vrai. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur le fait avec beaucoup d'énergie, qu'on connaît.
Mais il le fait avec des normes techniques, il n'a pas les outils pour pouvoir les fermer pour des raisons idéologiques. Ils sont obligés d'aller trouver une prise électrique qui n'est pas conforme pour pouvoir fermer certaines écoles.
Oui, enfin, c'est absolument. Et moi, nous sommes
mais
partisans.
Mais ça devient la difficulté,
nous,
effectivement,
Nous estimons qu'on ne va pas soumettre les écoles sans contrat à autre chose qu'à une déclaration, c'est ça que nous pensons, madame, hein, à une déclaration d'adhésion au principe républicain. Donc ça ne va pas être un contrat qu'on va leur demander, etc. Mais on dit, si vous voulez ouvrir une école, pour l'instant, depuis la loi Fallou, grand catholique devant l'éternel, le comte de Fallou, depuis la loi Fallou, n'importe quel bachelier peut ouvrir une école. Bon, eh bien là, on maintiendra ça, mais on dira en même temps, si je puis dire, il faut que vous affichiez le respect d'un certain nombre de principes. Ça touchera tout le monde.
Les chrétiens démocrates sont l'avenir.
Les chrétiens démocrates.
Ils ont montré la voie.
Moi, vous savez, je suis chrétien et démocrate, mais il manque le trait d'union. Je suis pas chrétien démocrate.
Juste une petite incise. On avait tous cru que l'Europe, ça serait mieux. Plus c'est mieux pour tout le monde. On voit la Pologne qui vient d'interdire l'avortement, sauf dans des cas extrêmement le viol et l'inceste, et notamment qui ne l'autorise pas en cas de malformation très grave du fœtus. Est-ce que c'est possible que les valeurs européennes, ou un certain nombre de le sens du progrès qu'on croyait être l'avenir, ce soit quelque chose, eh ben qui s'effrite et qui se désintègre.
Bien sûr,
Jean-Louis Bourlange.
Bien sûr, c'est
et
bien sûr.
Et qu'est-ce qu'on a
bien
à faire sûr. Avec ces gens-là
c'est le grand problème de notre civilisation. Nous avons bâti un corpus de valeurs, de droits, de respect mutuel, de confiance dans la démocratie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a dit plus jamais ça, etc. Ça a été la base du contrat européen, ça a été la base du contrat atlantique face aux soviétiques, et on a gagné par l'effondrement de l'Union soviétique. On a renoncé à ce qui était nos turpitudes, c'est-à-dire le colonialisme. Et puis, soudain, maintenant, tout cela est gravement menacé. En 1990, on pensait que les Chinois, Monsieur Fukuyama avait écrit
la fin de l'histoire.
Le libéralisme avait gagné, c'est la fin de
l'histoire. Et le dernier
on voit bien que le gouvernement chinois cultive sans aucune forme d'hésitation des valeurs qui sont radicalement opposées aux nôtres.
Ils sont avec nous.
Trump, c'est pas rien ce qui s'est passé autour de Trump.
Qu'est-ce qu'on a à faire avec des partenaires qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous?
Mais c'est pas vrai qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. C'est un parti politique. Le rapport est très équilibré politiquement entre la majorité et l'opposition en Pologne. Il faut se battre. Il faut se battre en Italie. Il faut se battre en Pologne, il faut se battre en Hongrie, il faut se battre en France. Nous sommes les dépositaires d'un précieux capital qui est la démocratie représentative, le pluralisme partisan,
le respect
des droits fondamentaux, l'état de droit. Tout cela, ce sont pas des biens qui sont définitivement acquis. Et on voit bien maintenant que on ne les conservera. C'est Thucydide, hein, il n'y a pas de bonheur sans liberté, mais il n'y a pas de liberté sans vaillance.
Mais on est loin des guerres du Péloponnèse malgré tout. Même si on s'apprête à commémorer le bicentenaire du décès de Napoléon. Est-ce que vous pensez que c'est justifié que ce soit le rôle du président de la République d'inscrire à l'agenda des commémorations officielles celle de cette figure considérable mais controversée de l'histoire de France?
Écoutez, moi je ne suis pas bonapartiste. Hein.
Justement, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Ce n'est pas votre droite.
Mais je reconnais quand même l'extraordinaire parcours et l'œuvre immense de Napoléon dans notre histoire. Mais alors ça, je crois, ce que vous posez indirectement, c'est une question qui avait été posée à l'ancien Premier ministre, à Édouard Philippe, au Sénat. Il avait très bien répondu. Il disait tous les hommes sont imparfaits. Les hommes d'État ont tous des défauts, ont fait des choses horribles, etc., ou des choses pas bien, c'est comme ça. Il disait, même le président Larcher n'est pas parfait, disait-il.
Ça, c'est allé loin.
Il avait fait rigoler toute l'Assemblée,
oui,
tout le Sénat.
Sauf que le président Larcher n'a pas rétabli l'esclavage.
Quand on honore les gens, on choisit de les honorer pour leur vertu, pour leur qualité. Et on ne peut pas dire que Napoléon n'ait pas fabriqué très largement la France moderne avec ses défauts, mais aussi avec ses immenses qualités. Cette administration...
Il faut commémorer le Code civil, il faut commémorer la Légion d'honneur et oublier le rétablissement de l'esclavage.
Vous préférez le Code civil. Il avait un défaut énorme. C'est la place faite aux femmes. Mais il avait un avantage énorme, c'est qu'il proclamait l'égalité. L'égalité civile, c'est la conquête révolutionnaire de 89 et elle est gravée dans le marbre par le Code civil. Ce n'est pas rien.
Solène de Royer.
Alors, Monsieur Boulange, vous êtes un grand défenseur du changement du mode de scrutin. Vous plaidez pour l'instauration de la proportionnelle aux législatives de 2022. N'est-ce pas un peu trop tard, d'une part, et d'autre part, n'est-ce pas un peu décalé par rapport au contexte politique et au contexte sanitaire du moment ?
Jean-Louis Boulange.
Ça n'est trop tard que si le président de la République ne l'en veut pas, or il semble qu'il ne soit pas tellement favorable, donc là vous avez raison, mais on peut le faire en 2 minutes et demie. La proposition que je fais, que nous faisons, qui est la même que celle de M. Ferrand, donc de nos collègues d'En Marche, c'est de dire, il faut que les grands départements élisent leurs députés à la proportionnelle, à la plus forte moyenne, avec un seuil de 5%. Ça demande une ligne, un texte de loi de 3 lignes. Hein. C'est enfantin à faire, on peut le faire dans le cadre du débat, où on va effectivement reporter les élections régionales et départementales. Donc on pourrait très bien le faire. Donc simplement, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Alors, je comprends.
Et pourquoi on ne veut pas ?
Chacun.
Nathalie Sarkozy.
Y a des gens qui soutiennent l'intérêt du majoritaire. Moi, je comprends très bien.
Hein. Non, mais je comprends philosophiquement on peut avoir des débats. Pourquoi Emmanuel Macron est buté là-dessus ?
Je ne sais pas. Dans le cadre de sa campagne présidentielle. Mmh. Et la seconde question, est-ce que c'est décalé par rapport au débat ? Oui, alors j'ai une nuance avec François Bayrou. François Bayrou dit on pourrait faire un référendum. Je ne crois pas qu'on va faire un référendum sur un sujet pareil en ce moment. En revanche, je crois que c'est pas du tout décalé par rapport à la réalité démocratique du pays. Nous, c'est la condition. Cette réforme de mode de scrutin, c'est la condition pour qu'on ait un Parlement qui soit plus autonome et plus divers. Pour l'instant, on a une majorité absolue, donc il y a tout le pouvoir au Parlement qui représente à peu près 24% de la population, c'est-à-dire l'électorat du premier tour du président Macron. Nous, l'Assemblée nationale, ça n'est pas la présidentielle. La présidentielle, on choisit un chef. Bon, un président. L'Assemblée nationale, on assure la diversité des grandes sensibilités. Donc il faut que le Parlement, s'il veut reconquérir de l'autorité, soit plus divers et plus autonome. La réforme que nous proposons lui donne ces deux qualités et elle ne menace pas la stabilité gouvernementale, car la Ve République surarme le gouvernement dans ses rapports avec le Parlement. Le mode de scrutin majoritaire, c'est ceinture en plus des bretelles.
Et un référendum sur l'écologie, introduisant notamment dans le... Vous pensez que c'est du gadget ?
Il y a deux options. Je suis assez réservé, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a deux options. Soit on fait comme M. Larcher. Il est essentiel, parce que c'est le Sénat. Si le Sénat ne vote pas le texte de loi dans les mêmes termes que l'Assemblée, il n'y a pas de référendum.
Possible.
Donc, les LR dit au Sénat, il ne faut pas mettre garantie, il faut mettre favorise. Je suis d'accord avec ça, sauf que ça ne sert plus à rien. Donc, ce n'est pas la peine de déplacer...
Garantie la protection de la diversité, de la biodiversité,
ça fait bien,
dans l'article 1 de la Constitution.
Si c'est garanti, alors là, je suis extrêmement inquiet, parce que ça veut dire qu'on continue de casser ce qui est, à mon avis, en grand péril aujourd'hui, qui est la filière de la responsabilité politique des gouvernements et des élus.
Donc, vous êtes contre ?
Aujourd'hui, je suis contre si on met garantie, je suis pas pour si on met favori.
Si vous êtes favori, ça sert à rien.
Effectivement, je reconnais que c'est pas très positif comme appréciation.
Okay. Encore une question, Solène de Royer.
Oui, diriez-vous que l'instauration du quinquennat il y a 20 ans a été une erreur, Monsieur Boulange ?
Non, parce que c'était quand même incroyable d'avoir un président qui était un chef réel de l'exécutif pour 7 ans. Ça avait été conçu initialement dans une conception un peu Troisième République, que Michel Debré avait assumé, dans lequel l'exécutif était dirigé par le Premier ministre. Alors là, le président était un peu au-dessus. À partir du moment où il est devenu le chef réel, partout, dans toutes les démocraties, c'est 4 ans ou 5 ans, il fallait revenir à 5 ans. Mais en revanche, et je réponds, c'est pour ça que je rebondis sur la proportionnelle, ça crée un véritable problème pour l'Assemblée nationale, car l'élection législative devient la réplique de l'élection présidentielle. Et on se demande, à quoi sert le Parlement ? Ce que nous proposons avec la proportionnelle,
De lui rendre un rôle. Ce sera donc sur ces mots que nous terminerons cet entretien. Merci Jean-Louis Boulange d'avoir été l'invité de Questions Politiques. On aurait eu beaucoup de questions encore à vous poser. Merci à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Pol. À dimanche prochain.